Bonjour et re-bienvenue sur le Double Dribble Podcast pour la partie 2 des prédictions de l'Association Est. Donc, on a déjà fait dans un podcast précédent les positions 15 à la position 9. Donc là, on commence à rentrer dans les grosses équipes, les équipes qui vont avoir accès au tournoi d'avril jusqu'à l'obtention du trophée Larry O'Brien. Donc, on commence ça, on perd pas de temps. En position numéro 8, qui as-tu?
Alors, position numéro 8, mesdames et messieurs, le Heat de Miami.
Alors, nous n'avons pas le même en position numéro 8. Alors, moi, j'ai les Pistons de Détroit. Alors, je te laisse commencer avec le Heat.
Donc, le Heat de Miami qui a accueilli cet été le joueur énigmatique Jimmy Butler. Est-il une superstar? Est-il un franchise incontestable? Peut-il mener son équipe au plus haut sommet? Est-tu un leader? Donc, Jimmy Butler qui arrive avec la formation de Miami, qui va être incontestablement le numéro 1 de cette équipe-là. Donc, le Heat qui dit adieu à l'époque Dwayne Wade, qui a pris sa retraite à la fin de l'année. Toute une carrière pour Dwayne Wade.
Mais one last dance.
Yes. Maintenant, on repart pour une nouvelle épopée avec Jimmy Butler en tête. Si on peut y aller avec les autres armes que Pat Riley a mis ensemble pour son équipe, pour son coach Eric Spoelstra. Donc, on a Jimmy Butler qui va être poste 2, poste 3, dépendamment là, des formations jugées par le coach. Probablement qu'il sera un poste 3, là, c'est sa position de prédilection. Au poste 1, on a toujours Goran Dragic qui est là. Poste 2 au niveau du Heat, là ça va être probablement, si on va peut-être y aller d'une formation avec un Jim Butler en 2 et un Justice Winslow en 3. C'est vraiment là, au niveau du Heat, je vous dirais là, que c'est, on a des joueurs qui peuvent œuvrer à plusieurs positions. On a au poste 5, on a encore Bam Adebayo, le jeune joueur qui est là, qui peut être le starter, dépendamment. Donc, au niveau du Heat, je trouve qu'on a quand même une formation qui est relativement énigmatique. Le Heat a toujours des formations qui travaillent dur. C'est toujours dur de jouer contre le Heat. Le Heat ne se laissera jamais marcher sur les pieds, ne va jamais arrêter de défendre. Donc, je pense que le Heat va être une équipe fatigante à jouer contre. Ça va être éreintant de jouer contre le Heat. Ils vont toujours être après vous. Il y a des petits bulldogs là, dans l'équipe qui sont bons défensivement. T'sais, Jimmy Butler, il a beaucoup de défauts. C'est un excellent défenseur. Et excellent pour offensivement à mi-distance. Là, c'est une de ses grosses qualités. Donc je pense que Jimmy Butler va vraiment mener cette équipe-là. Va prendre l'équipe sur ses épaules. Je pense que le Heat va être en série, mais je pense que ça va être difficile. De vraiment être plus haut que 8e position parce que vraiment au niveau des ressources offensives à part Jimmy Butler, je trouve qu'ils sont un peu limités au niveau de Miami. Donc je vois le Heat 8e. Je pense que ça va être du 41-41, honnêtement là, ça va être vraiment, on va jouer pour 500 à Miami. C'est la division la plus faible de l'Est. Je pense que ça va se battre beaucoup entre ces équipes-là. Je pense que quand le Heat va affronter des équipes des deux autres divisions, et les équipes de l'Ouest, ça va être assez difficile. Je pense qu'on va quand même être assez fort à domicile, mais que c'est ça, sur la route, ça va être difficile. Quand on va avoir, exemple, un top défenseur de la Ligue qui va défendre contre Jimmy Butler, puis qu'on va être obligé de de choisir un autre joueur pour plus mener l'attaque, je pense que ça va être difficile avec le Heat. Donc, moi, je les vois 8e. Comme facteur X pour le Heat, ben, j'y vais avec Jimmy Butler parce que c'est le joueur le plus important de la franchise. C'est lui qui va faire que le Heat va être en série ou non. C'est pas reconnu pour être un coéquipier exemplaire. Il a une forte personnalité. Donc, ça va vraiment être... Si Jimmy Butler fait une saison en 25 points avec des rebonds et des passes, je pense que le Heat va faire les séries si les autres joueurs autour se blessent pas. Mais si Jimmy Butler a de la difficulté et a des petites disputes à l'interne avec ses coéquipiers dans le vestiaire, je pense que le Heat pourrait glisser hors des séries. Donc, c'est pour ça que je mets le Heat 8e.
Donc, pour moi, ça va être les Pistons de Détroit qui vont terminer en 8e position. Donc, qui avaient terminé également en 8e position l'année dernière, qui avaient fait face aux Bucks de Milwaukee en première ronde de playoff. Donc, même résultat pour les Pistons. Donc, vont finir encore une fois 8e. Si on se transporte là un peu à l'année dernière, on avait un nouveau coach. Donc, on avait l'ancien coach des Raptors qui avait fait son entrée en tant qu'entraîneur-chef des Pistons de Détroit, qui avait récolté une belle victoire justement à Toronto là, à son retour avec un tir là, au buzzer qu'on appelle. C'était quand même une belle saison des Pistons qui avaient réussi à accéder au post-season, mais qui s'était fait dominer, disons-le, là, en 4 matchs par les Bucks, là, qui avaient fait qu'une bouchée de ces pauvres Pistons. Les Pistons, par contre, qui avaient quand même un choix de repêchage dans le top 15, donc ils avaient le 15e choix, et qui ont repêché le français Sekou Doumbouya. Donc le joueur là, en position 3, position 4, là, ça peut dépendre de la formation qu'on utilise, mais qui évolue normalement là, en tant que small forward ou power forward pour cette équipe-là. Pour le free agency, on est allé chercher quelques joueurs, dont Derrick Rose, qui avait fait une saison, un comeback season, une des plus belles histoires de l'année dernière. Si vous ne l'avez pas vu, le voir son match de 50 points avec le maillot rétro des Timberwolves, et le voir éclater en sanglots à la fin du match, disant qu'il avait travaillé très fort pour revenir où il est maintenant. Les Wolves qui ont décidé eux autres qu'ils n'avaient plus besoin des services de Derrick Rose, mais les Pistons lui ont quand même offert du boulot. Donc il va avoir, je pense, un contrat de 2 ans, si je me souviens bien, là, pour Derrick Rose. Donc il lui donne une autre chance de se faire valoir là, dans l'Est. Donc peut-être lancer l'association Ouest, qui est un petit peu moins difficile, là, un petit peu moins saignante que l'association Ouest. Donc a la chance de se faire valoir avec une autre organisation. On est allé chercher aussi Markieff Morris et récemment le gagnant du tournoi, je pense que c'est le Big Three qui appelle, Joe Johnson, le MVP du tournoi, donc qui a signé un contrat également avec les Pistons. On a encore la raquette Drummond et Griffin, là, que c'est deux gros bonhommes, deux joueurs qui jouent très bien. Drummond qui est peut-être un peu unidimensionnel, mais Griffin qui a vraiment réussi à changer son style de jeu dans les dernières années. On le connaissait en arrivée de college, qui sautait, dunkait. S'il y avait l'opportunité de dunker sur une, deux, trois personnes en même temps, il n'y a rien qui l'arrêtait. Maintenant, a développé un tir à mi-distance, son tir à 3 points est devenu plus... plus consistant. Donc, a vraiment travaillé sur son game en général et est devenu un joueur encore plus complet qu'il l'était, tout en gardant son ADN là, de high flyer qu'on appelle. Donc, pour les Pistons, pour moi, il n'y a pas vraiment d'amélioration drastique ni de pas de recul. Donc, ça va quand même être une équipe qui va faire les playoffs. Je ne vous dirai pas que ça va être facile. Ça va être un lock en playoffs. Ça va se batailler, d'après moi. Là. Je les avais mis en 9e position. J'avais mis les Bulls en 8e. Et à la dernière seconde, peut-être par le côté un peu plus mature des gens qui ont de l'expérience. Là, c'est des gars qui ont énormément d'années derrière la cravate. Là. Si on pense à Derrick Rose, Joe Johnson, Blake Griffin, Andrew Drummond, c'est tous des gars qui ont beaucoup d'années... d'expérience dans la ligue, donc je pense que ça va être un facteur primaire là, pourquoi ils vont réussir à se rendre dans l'off-season. Donc ils vont faire quand même qu'ils vont affronter l'équipe numéro 1 comme l'année dernière, mais pour les Pistons, pour moi, c'est ce qui clôt le sujet. Par contre, pour le facteur X, je vais le mettre à il y a deux gars. Ça va être Andrew Drummond et Tom Maker. Donc, Tom Maker, on sait, il jouait avec les Bucks avant et son style de jeu était peut-être pas utilisé assez. Là, dans une équipe peut-être un peu moins dense en talent, il va avoir le loisir de s'exprimer plus aisément. Et Andrew Drummond, j'ai hâte de voir s'il va être capable de peut-être en donner plus à son équipe. Oui, on le connaît comme un joueur qui peut faire du 20-20, qui quasiment... les yeux fermés, mais je pense que si l'équipe veut avoir du succès tout au long de la saison, on va avoir besoin d'un Andrew Drummond qui est constant, puis peut-être meilleur au lancer franc s'il a été capable de travailler ça dans l'off-season. Ça va être intéressant pour la suite. Donc, on passe en position numéro 7. Donc, pour moi, en position numéro 7, j'ai le Heat de Miami. Et tu as les Pistons. Donc, on ne va pas s'éterniser pour ces deux équipes-là. Donc, je vais parler brièvement pour le Heat. La grosse affaire pour eux, c'est l'acquisition de Jimmy Butler, qui était qui allait tomber agent libre, mais que c'est tombé comme étant un sign and trade. Donc, ils ont signé Jimmy Butler à Philadelphie. C'est un trade à 4 équipes, si je me souviens bien. Donc, les 76ers, le Heat, les Clippers et Portland, si je me souviens bien. Donc là, des picks, je pense qu'il y a Hassan Whiteside qui prend le chemin de Portland, Jimmy Butler qui prend le chemin de Miami et là, le nom m'échappe, Josh Richardson qui s'en va aux Sixers. Et il y a un choix de première ronde aussi qui a été perdu par Miami. Par contre, Miami a quand même été a bien fait au repêchage. Il est allé chercher le jeune Tyler Hero qui a extrêmement bien fait dans le Summer League. Donc, il y a beaucoup de hype autour de ce jeune homme-là. Avec la saison dernière, là, il y avait la blessure de Goran Dragic qui avait fait place à Justice Winslow en tant que point guard partant, qui est un gros bonhomme. Justice Winslow qui est 6-8, 6-9, mais qui avait très bien fait et qui a déclaré là, récemment qu'il voulait avoir le poste de point guard titulaire, même si Goran Dragic était revenu en santé. Et donc, j'ai hâte de voir là, dans toute cette espèce de tornade-là, d'événements. Comment Spoelstra va être capable d'accorder son équipe, parce que Spoelstra est un des meilleurs coachs dans la ligue, selon moi. Donc, de trouver l'espèce d'ingrédient secret qui va faire en sorte que la mayonnaise va prendre, ça va être cool à voir. Pour moi, mon facteur X, ça va être Justice Winslow. J'ai hâte de voir ça va être quoi son apport avec cette équipe-là. Et on va sûrement lui donner un rôle plus important. Il va vraiment être peut-être le lieutenant de Jimmy Butler. Donc, j'ai hâte de voir sa progression à lui. Puis s'il va avoir une place là, en tant que point guard partant pour l'équipe du Heat.
Ouais, donc, comme tu l'as dit, là, on va pas s'éterniser. Moi, j'ai les Pistons en 7. Raison fort simple. Je pense que les Pistons ont à peu près la même équipe. Deux additions, comme on l'a dit, majeures. Si on peut le dire comme ça. Derrick Rose, un de mes joueurs préférés dans la ligue, qui sera probablement le partant au titre de point guard, meneur de jeu, à moins qu'il soit le sixième homme parfait. Honnêtement, là, moi, je pense que Derrick Rose, en tant que sixième homme d'une équipe, là, c'est toutes les équipes aimeraient savoir ça. Donc, l'arrivée de Derrick Rose, Sekou Doumbouya, je pense qu'il va avoir beaucoup de... Je pense qu'il va avoir les occasions de jouer avec Dwayne Casey en tant que coach. Et je pense que dépend avec la... C'est sûr qu'on a Drummond et Griffin en 4 et 5. Fait que je pense qu'il ne peut pas vraiment être en poste 4. Mais je pense qu'en poste 3, il y a une belle occasion de jouer là. Et comme on l'a dit, là, dans les dernières années, le gros problème des Pistons, c'est la création offensive. Parce que c'est sûr qu'on a un Griffin et un Drummond qui sont là dans le poste avec les rebonds, les moves. Mais si on a personne qui leur donne le ballon, qui fait les transitions, choses comme ça, c'est très difficile, honnêtement, là, de pouvoir fonctionner offensivement à plein régime. Donc, je pense que les Pistons vont être... C'est une des meilleures équipes défensives, mais ça va être une équipe qui va encore avoir de la difficulté à marquer. Je pense que Derrick Rose va avoir une très bonne saison. Je pense qu'il va être capable de... va être capable d'amener son jeu à un autre niveau et que les Pistons vont peut-être être un petit peu meilleurs que le Heat. Mais comme j'ai dit, je pense que le Heat va être peut-être 41-41. Mais moi, je pense qu'honnêtement, les Pistons ont 42-40. Ce sera pas plus que ça non plus. Je les mets juste un petit peu en haut à cause de l'expérience de ces joueurs. Drummond, Griffin, Derrick Rose, comme tu l'as dit aussi, là, Joe Johnson. Donc, je pense que c'est probablement ce qui va faire qu'ils vont être une petite coche en haut. Et voilà, mon facteur X pour les Pistons, Derrick Rose. Comme je l'ai dit, là, Derrick Rose qui a eu une très bonne saison l'année passée avec les Timberwolves aurait pu être considéré comme le MIP de l'année ou même un sixième homme de l'année, honnêtement. Là. Un très beau comeback. Derrick Rose, on espère toujours que ses genoux vont tenir, malheureusement, là, qui est un des joueurs les plus dynamiques et explosifs, mais qui malheureusement a été ralenti par les blessures dans les dernières années. Donc, l'ancien MVP de 2011, moi, je pense qu'il peut donner un bon coup de main aux Pistons, et c'est pour ça que c'est le joueur que je vais surveiller lorsque les Pistons vont être à la télé.
Ouais, t'as soulevé un bon point, là, on va finir vite sur ça. La complémentarité de Drummond et Griffin, est-ce que vraiment c'est l'ingrédient, est-ce que c'est vraiment la solution à Détroit, est-ce qu'on va avoir droit à un trade? C'est hâte de voir les dirigeants de Détroit, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme direction. Est-ce qu'on garde Griffin? Est-ce qu'on garde Drummond? Dans quelle direction on s'en va? Si on en échange un des deux, c'est sûr qu'on va avoir des assets. C'est un peu moins intéressant maintenant, mais peut-être avoir des picks et reconstruire à long terme. Mais oui, non, ça va être une saison intéressante pour les Pistons. Mais là, pour l'instant, on va parler d'une autre équipe. Équipe numéro 6, je pense qu'on a la même. Je ne vais pas m'avancer. Mais moi, j'ai les Pacers d'Indiana. On n'a pas la même.
Non. En position 6, j'ai les Nets de Brooklyn.
D'accord, d'accord. Je te laisse en parler.
Oui, donc les Nets de Brooklyn sont très attendus cette saison. Bien sûr, on le sait là, avec les signatures de l'été. Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, avec l'échange de D'Angelo Russell, dans le fond, le sign and trade. C'est sûr et certain qu'on l'a dit, Kevin Durant ne devrait pas jouer ou vers la fin de la saison, s'il y a quoi que ce soit là, pour les séries. Donc c'est vraiment nébuleux, mais moi, selon moi, dans ma tête, Durant ne jouera pas de l'année au complet. Et donc, ça va laisser Kyrie Irving avec une bande de joueurs qui sont très soudés. Les Nets avaient vraiment une très belle équipe l'année passée. Ça jouait dur, c'était intense. On avait vraiment une belle équipe, honnêtement. Là, les Nets, c'est une des équipes les plus intéressantes à regarder. Qui était menée de main de maître par D'Angelo Russell, qui malheureusement n'est pas resté avec les Nets. Moi, j'étais un peu déçu qu'on décide pas de garder D'Angelo Russell, mais je pense que si on avait gardé Russell, on n'aurait pas eu Kevin Durant, parce que c'était vraiment Kevin Durant, Kyrie Irving, c'était dit, on va aller jouer ensemble. Donc, ça va nous laisser avec Kyrie Irving, qui, en tant que meneur de l'équipe, avec plein de joueurs qui se connaissent, qui sont vraiment amis, proches, qui sont habitués à jouer ensemble, et Kyrie Irving qui a tout le talent du monde, mais qui est c'est pas le meilleur coéquipier. C'est pas le meilleur leader comme on a pu le voir avec les Celtics, et je pense que ce ne sera pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que Kyrie Irving va faire 10 points par match, mais je pense que Kyrie Irving, on va avoir du temps à s'acclimater à ses nouveaux coéquipiers, au système de jeu. Donc aussi, il y a DeAndre Jordan qui est là, qui va aussi devoir s'acclimater. Je pense que les Nets ont des jeunes joueurs prometteurs en Caris LeVert, Jared Allen aussi. On a vraiment une belle équipe. Joe Harris en shooting guard, small forward, qui est un espèce de 3D, un espèce de Danny Green, là, pour être plus familier avec les fans des Raptors. Donc, je pense que les Nets, avec Kevin Durant en santé, c'est sûr que j'aurais mis les Nets très haut. Mais là, avec Kyrie Irving qui mène l'équipe, je pense que ça va faire un peu comme l'année passée avec les Celtics. On va avoir une bonne équipe qui est toujours potentiellement très dangereuse à affronter, mais je pense que les Nets vont devoir s'acclimater au nouveau style de jeu avec Kyrie Irving et vont avoir plus de difficultés à remporter autant de matchs qu'on veut. Et donc, les Nets, je les mets 6e. Je pense que tu allais ajouter quelque chose.
Non, non, vas-y, je te laisse terminer avec ton facteur X.
Donc, les Nets, moi, je leur prédis une belle saison quand même, là. Mais je crois que le facteur X des Nets cette saison, ça va être Caris LeVert. Caris LeVert qui a eu une très belle éclosion l'année passée. Il a eu une blessure en fin de saison et est revenu en séries éliminatoires contre les 76ers. Il a connu une très belle première ronde de playoff contre les Sixers. On avait donné du fil à retordre et c'était probablement le meilleur joueur de l'équipe avec D'Angelo Russell. Donc je pense que Caris LeVert va continuer de se développer et au poste 2, va devoir cohabiter avec Kyrie Irving. Donc, qui va avoir le ballon plus souvent? Comment va C'est sûr que Kyrie Irving va avoir beaucoup de ballons parce que c'est un joueur qui a du. On a, le handling qu'on appelle, il est complètement fou. C'est un des joueurs qui a le plus de talent dans cette partie-là du jeu. Mais je pense que la cohabitation avec Caris LeVert va être super importante pour le succès des Nets cette année. Donc, c'est mon facteur X. Et c'est pour ça que je mets les Nets 6e, mon ami Benjamin.
Parfait. Donc, moi, je vais enchaîner avec ma position numéro 6. Donc, les Pacers de l'Indiana qui avaient l'année dernière une saison incroyable avant la blessure de M. Oladipo. Blessure qui est survenue durant un match contre les Raptors, si je me souviens bien. Blessure un peu fâcheuse, mal tombée. A été à l'écart du reste de la saison. On a vu des progrès pour lui, mais on ne voulait pas rusher du côté de l'organisation un retour, là, comme on a pu voir, mettons, avec un Kevin Durant l'année dernière durant le match numéro 5 des séries, mais 5 ou 6, si je me souviens bien. Donc, saison quand même assez intéressante pour les Pacers l'année dernière. On a terminé en position numéro 5, juste dans le dernier droit. Là, on a fini 5e. On a dû céder l'avantage du terrain aux Celtics pour la première ronde des séries. On s'est fait sweeper en 4 de façon assez expéditive. Il y a eu peut-être un bon match que les Pacers avaient un très très bon une très très bonne chance de remporter le match, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc on se transporte dans une saison suivante avec un off-season quand même assez cool du côté des Pacers. On est allé chercher un Malcolm Brogdon que chez les Bucks on avait un certain montant à dépenser, mais qu'on ne pouvait pas garder tout le monde, malheureusement. Donc, c'est Brogdon qui a dû céder sa place à Brook Lopez et compagnie du côté des Bucks. Donc, Michael Brogdon était agent libre et a signé pour un contrat de 20 millions l'année aux Pacers. Peut-être une perte du côté des Pacers, c'est Bogdanovic qui est parti. Par contre, on reste sur une équipe qui était pas mal assez similaire. Donc, on avait connu un très bon... une très bonne saison l'année dernière. On a quand même aussi allé chercher TJ Warren des Suns qui a eu une très bonne saison à 3 points, surtout du côté de Phoenix. Donc, contre presque rien. Donc, on a fait cette acquisition-là. On a toujours du Miles Turner. On a toujours un Domantas Sabonis qui est très, très, très « impactful », comme on dit en anglais, là, qui a vraiment beaucoup d'impact quand il fait son arrivée sur le terrain. Il était dans la course au sixième homme cette année. Mais qui a été remporté par Lou Williams encore une fois. Mais par contre, était vraiment un joueur très, très, très dominant. Donc, il peut évoluer au poste 4, poste 5, pardon. Donc, on a ces joueurs-là. On a Jeremy Lamb aussi qui a fait une signature qui, lui, a quitté Charlotte pour venir s'installer du côté de l'Indiana avec Brogdon. Justin Holiday aussi, une petite acquisition du côté des Pacers. Je pense qu'il va avoir le dessus sur les équipes 7 et 8. Par contre, je ne les vois pas, de mon côté, battre les Nets, vu que le cœur des Nets sont encore pas mal toutes là. Puis on amène une superstar comme Kyrie Irving. Je pense qu'ils vont avoir une petite coche en dessous des Nets, mais vraiment pas de beaucoup. Puis moi, mon facteur X pour les Pacers, ça va être Miles Turner. Là, il faut qu'il se présente comme étant un centre de la nouvelle génération qui élève son jeu. On le connaît comme un joueur qui n'a pas froid aux yeux, monte au bloc, monte au dunk. Il va falloir qu'il continue ça, puis il va falloir qu'il continue encore plus, qu'il progresse beaucoup plus s'il veut devenir un joueur là, pour être un bon lieutenant pour un joueur comme Oladipo. Oladipo qui devrait jouer la saison prochaine. Du côté des Pacers, mais j'ai hâte de voir aussi là, comment tout ça va prendre ensemble et comment ils vont réussir à faire opérer la magie, comme on dit. Donc, top 5. En cinquième position, j'ai les Nets de Brooklyn.
En cinquième position, j'ai les champions de la NBA, les Raptors de Toronto.
Parfait. Donc, je vais commencer, moi, avec les Nets. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur ça. Pour ce qui est des Nets, un très très bon off-season. Ils sont allés chercher trois gros noms. Jordan qui est peut-être un peu plus effacé des deux autres, mais quand même qui est un beau complément, là, mettons, une équipe comme, mettons, Houston, si, mettons, on voit un Harden, un Westbrook, puis un Capella, qui est un peu plus en retrait de ces deux, de ces deux têtes d'affiche-là, mais qui est très, qui a beaucoup d'impact sur son jeu. Donc, c'est un joueur qui est encore très bon défensivement, offensivement, qui est peut-être un peu unidimensionnel, pas de shoot à 3 points, mais une distance un peu plus compliquée, par contre, qui peut venir aider tous les joueurs un peu plus petits sur le terrain. Mais oui, avec la confirmation, je pense que Kevin Durant ne jouera pas. Et Kyrie Irving qui a parlé justement sur le sujet, disant que on veut pas presser un produit qui n'est pas à point. On veut que Kevin Durant, on veut pas que quelque chose comme une blessure qui est survenue l'année dernière se reproduise à la fin de saison et qu'il manque une autre saison complète. Donc on préfère le laisser de côté. Et repartir sur des bases neuves pour la saison d'après. Et il y a eu le Media Day justement, là, il y a quelques temps de ça, où Kyrie Irving a fait un peu un mea culpa du genre je n'ai pas été un bon coéquipier à Boston, je n'ai pas fait le travail que j'avais à faire, j'aurais dû leader une équipe pour être vraiment un contender l'année dernière. Là, on sait avec les Celtics, il y avait trop de talent pour une équipe. Dans une équipe où il y avait de la profondeur, on a pu finir. Mais la distribution des ballons était peut-être un peu plus compliquée. Tout le monde voulait avoir la balle en main, mais il y a juste un ballon dans le match. Donc, il n'y a pas personne qui peut le toucher. Frustration certainement qui a pu être accumulée. Et là, ça va être vraiment être la preuve, le voir. Est-ce que c'est vraiment des propos qu'il a tenus juste pour comme faire taire ses détracteurs? Ou vraiment, là, il a fait preuve de maturité. Il est prêt à passer au deuxième niveau en tant que leader, là.
Ouais, puis juste pour ajouter, tu parlais de Carrie, parlais aussi que l'année dernière, je pense qu'il avait perdu son grand-père, ça avait beaucoup affecté, donc au niveau du moral, donc il a mentionné ça, donc et a dit que l'année prochaine, l'année qui s'en vient, allait être une très bonne année pour lui.
Ouais, on lui souhaite pour Kyrie Irving parce que ces années à Boston, là, on lui promettait, en fait, on attendait de très grandes choses pour l'équipe des Celtics et ça a été un peu là, une tornade dans un verre d'eau. Puis après ça, ça s'est terminé pour son passage à Boston. Donc pour moi, pour les Nets, mon facteur X, ça va être Kyrie Irving. Il faut qu'il fasse taire ses détracteurs. Il faut qu'il fasse faut qu'il y ait une performance vraiment de All-Star qui soit pour moi, un starter dans l'équipe des All-Stars. Il faut qu'il reprenne ce poste-là. Il faut qu'il montre à qui c'est qui est le point guard leader de l'association Est. Donc, beaucoup pensent à lui. Ben Simmons, maintenant, qui joue comme point guard. Donc, là, il faut vraiment qu'il montre que c'est lui qui domine l'association Est et qui mène cette équipe des Nets là, très prometteuse vers de nouveaux sommets.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les champions de la NBA, les Raptors, je les vois en cinquième position cette année. Assez simple, dans le fond, on a parlé beaucoup des Raptors cet été. On a eu beaucoup de discussions, moi et Benjamin. C'est sûr qu'avec le départ de Kawhi Leonard, malheureusement, qui est parti aux Clippers, et de Danny Green, qui est parti aux Lakers, on se trouve avec un espèce de trou béant, un espèce de lendemain de veille du championnat. Par contre, tu sais, l'équipe des Raptors n'est pas complètement détruite. On a encore des vétérans de très grande qualité avec les Raptors. On a quelques jeunes joueurs. On a encore. Et ce qui est très positif pour les Raptors, si on veut penser au futur, c'est que cette année, on va avoir beaucoup, beaucoup d'espace à dépenser sur la masse salariale à la fin de l'année parce qu'on a beaucoup de gros contrats expirants qui se terminent. Donc, si ça ne fonctionne pas comme on veut cette année avec les Raptors, mais on peut rebâtir avec beaucoup d'argent à dépenser, avec quatre, dans le fond, là, on a quatre vétérans qui vont être agents libres à la fin de l'année. Kyle Lowry, Serge Ibaka, Marc Gasol et Fred VanVleet. Donc, ces quatre joueurs-là. Et on a Pascal Siakam qui termine son contrat rookie. Donc, on va fort probablement garder Siakam, qui est le joyau de l'organisation. Mais les quatre autres joueurs, on va devoir faire des choix. On va voir qu'est-ce qui va en être. Donc, pour revenir aux Raptors cette saison, je leur prédis une belle saison quand même. On va avoir de l'ajustement à faire. Je pense qu'au niveau des rotations, Nick Nurse va avoir plusieurs options. Je sais qu'en série, on a vu beaucoup de formations avec un duo Lowry-Van Fleet. Je pense que c'est la formule à utiliser cette saison. avec nos joueurs un peu plus imposants dans les postes 3, 4, 5. Je pense qu'on peut rivaliser avec beaucoup d'équipes dans ce côté-là, avoir un bon balancement des forces. Donc, selon moi, je pense que les 5 joueurs utilisés par Nick Nurse en début de match, qui vont commencer le match, pas nécessairement les joueurs qui vont jouer peut-être tout le temps ensemble, mais les 5 joueurs qui vont commencer le match, je pense qu'on va avoir un Kyle Lowry, un Fred Van Fleet, un OG Anunoby qui est revenu de blessure, qui va avoir beaucoup de choses à prouver après le départ de Kawhi Leonard. Vraiment, cette position-là est ouverte pour lui. Il peut se développer. C'est un joueur, honnêtement, je ne veux pas faire de comparaison, mais il ressemble quand même assez à Kawhi Leonard au niveau grandeur, au niveau physique. Il faudrait qu'il prenne peut-être un peu plus de force musculaire. Parce que c'est un joueur qui est très bon défensivement. Il y a quelques années, quand on affrontait toujours les Cavs de LeBron James, c'était lui qui était contre LeBron James. Il y a eu des bonnes séries contre lui, malgré que les Raptors perdaient toujours. Donc, Anunoby, c'est un bon défenseur. Il peut rentrer les 3 points. C'est un joueur athlétique et intense. Donc, je pense que c'est la place d'OG Anunoby cette saison. Au poste 4, aucune surprise, Pascal Siakam, le joueur le plus amélioré de la saison dernière, qui, selon moi, va être le joueur le plus important des Raptors cette saison. Ça va être l'arme numéro un des Raptors. Ça va être le joueur qui va être, comme on dit, là, les autres équipes vont scouter sur Pascal Siakam pour le défendre. C'est quoi les stratégies à employer contre lui? Et au poste 5, le vétéran Marc Gasol, qui a re-signé, dans le fond, qui a pris sa player option avec les Raptors après le titre. Donc, Marc Gasol a une autre saison avec les Raptors au poste 5. Et, bien entendu, le sixième homme des Raptors, Serge Ibaka, le vétéran de quelques saisons, qui va redonner là, son énergie, ses tirs à mi-distance, là, quasiment 3 points, ses dunks et surtout ses blocs. Donc, je pense que c'est les 6 joueurs les plus importants de Nick Nurse. Et en septième, comme septième joueur de la rotation, Norman Powell, qui a quand même connu des bonnes séries en général et qui a toujours peut toujours éclore. Donc, pour les Raptors, on a quand même, par contre, une des divisions les plus difficiles de l'Est. On a les Knicks qui vont être misérables, mais après ça, on a quand même les Nets, les Celtics, les 76ers, qui, vous avez bien compris, vont être en haut des Raptors. On les a pas encore nommés. Donc, c'est la division la plus dure de l'Est. Et aussi, le syndrome du champion. Quand une équipe gagne un championnat, toutes les équipes qui les affrontent l'année prochaine vont être prêtes à battre les champions. On veut leur montrer qu'on est meilleur qu'eux. Donc, les Raptors vont avoir beaucoup, beaucoup de pression cette saison. Mais je pense qu'avec la force de leurs vétérans, on n'a pas perdu tant de... Oui, on a perdu Kawhi Leonard et Danny Green, mais on est capable d'avoir des formations qui sont similaires à ce qu'on utilisait, mais avec des joueurs, un autre joueur, comme je parle avec Anunoby. Et comme je l'ai dit au début, on a 5 joueurs quasiment, qui dans les 6 joueurs les plus importants, qui vont être en année de contrat, comme on appelle, et donc vont vouloir se défoncer et vont vouloir soit rester avec les Raptors ou avoir des bonnes performances pour pouvoir se trouver une autre niche ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vois les Raptors 5e. Je les voyais probablement dans le top 4, mais je pense que toutes les options, toutes les choses que j'ai dit vont faire que ça va être difficile pour les Raptors de toujours... d'avoir la constance au cours de la saison. Il y a beaucoup de fatigue aussi vu qu'on est allé loin en playoff. Et bien sûr, au niveau de l'attaque, on a perdu quand même quelques points, là, je vous dirais quasiment 40 points avec Danny Green et Kawhi Leonard. Donc, il va falloir trouver des alternatives et je pense que ça, on va être toujours aussi bon défensivement, mais offensivement, ça va être plus difficile. Donc, plus difficile aussi de gagner des matchs. Je pense qu'on va gagner beaucoup de matchs serrés. On va gagner avec notre expérience, mais ça va être difficile de percer le top 4. Donc, je vois les Raptors remporter probablement... tu sais, on a gagné beaucoup de matchs l'année passée. Là, si je ne me trompe pas, c'était comme 58 ou 59 victoires. Je pense que les Raptors, maximum, peuvent gagner 50 victoires cette saison, mais vraiment maximum. Fait que moi, je pense qu'on les situe plus au niveau d'un peut-être un 48 victoires. Là. Et mon facteur X, pardon, c'est Pascal Siakam. Ça va être le joueur le plus important. Est-ce que ça va être un All-Star? Est-ce que ça va être... est-ce qu'il va être All-Star cette saison? Est-ce qu'il va montrer que c'est le joueur de franchise de cette équipe-là? Est-ce qu'ils ont bâti autour de lui? Ou c'est vraiment juste un lieutenant? Donc, et il va avoir beaucoup d'attention sur lui.
Parfait. Donc ça, c'est ce qui clôt le poste numéro 5 pour l'association Est. Donc, au poste numéro 4, j'ai les Raptors.
J'ai les Celtics.
Les Celtics, ça, tu ne cesses de m'étonner. Donc, je vais passer vite sur les Raptors. Là. On la connaît, c'est l'équipe dont on connaît le plus ici. On est vraiment en mode transition. On est en mode... honnêtement, j'ai de la misère à définir la situation complète des Raptors. On a des pièces qui sont très, très, très intéressantes encore. On a un Kyle Lowry qui est All-Star depuis quelques saisons. On a un Fred VanVleet qui a vraiment éclos depuis quelques saisons et qui a fait une progression immense durant les séries. La série contre, mettons, les 76ers, ça a été plus compliqué. On concédait beaucoup en taille aux 76ers, mais contre les Warriors qui a connu une saison malade mentale. Donc même pour le trophée, le remis au MVP là, des playoffs, il y avait même une personne qui avait voté pour que Fred VanVleet remporte ce trophée-là du MVP des finales. Donc ça donne à quel point là, il a fait beaucoup de chemin depuis son arrivée en NBA, qui est un joueur non drafté, si je ne me trompe pas. OG Anunoby, tu en as parlé un petit peu, joueur quand on l'a drafté, qui avait une saison universitaire avec des blessures, mais qu'on a pris quand même pour ses qualités défensives et athlétiques, quand même qui ressemble, comme tu as dit également, à Kawhi Leonard, un joueur très silencieux, faire parler par exemple, il va falloir qu'il continue dans cette veine-là et qu'il prenne un peu plus de responsabilité défensive. Les match-ups, on va les donner à lui. On a eu quelques signings durant le off-season, mais des trucs très, très, très minimes. On est allé chercher Stanley Johnson. On est allé chercher aussi, comment il s'appelle, l'ancien joueur des Bulls, Cameron Payne. Donc, on était à chercher des petites acquisitions par-ci, par-là. On a re-signé M. Tripeat, le Patrick Mecca. Mais c'est vraiment pas une grosse off-season pour les Raptors. On est allé chercher, comme tu as dit, là, Mark Gasol a pris sa player option avec les Raptors. Beaucoup le voyaient la refuser pour tout de suite signer un contrat à plus long terme, mais a jugé de prendre l'argent tout de suite. Et là, la question se pose sur la saison qui va suivre. Du moins pour la fin de la saison, là, quel contrat va-t-il obtenir? Est-ce qu'il veut un contrat à longue distance, de longue durée, ou veut un contrat peut-être un peu plus minime et se redonner la chance de gagner un championnat avec une autre équipe avant de prendre sa retraite? Ça peut être une option. Pour l'instant, il y a un point d'interrogation un peu sur les Raptors, mais tu as mis le doigt dessus. Pascal Siakam va être... fort possiblement, le nouveau joueur de la franchise pour les Raptors. Donc, on s'attend de lui à du 23-24 points par match avec un 6-7 rebonds, avec un 4-5 passes. Je pense que c'est des stats qui sont atteignables pour Pascal Siakam. On l'a vu l'année dernière dans le 3 points dans le coin, était très très bon. Donc là, s'il est capable de développer aussi un jeu à mi-distance, il va être une menace, un vrai poison pour la défense adverse. Donc, on va voir dans les matchs qui vont, des matchs pré-saison et le début de la saison, voir le travail là, que Pascal Siakam a mis là, durant l'été pour devenir le joueur qu'il va devenir. Pour moi, le joueur, le facteur X, moi je vais mettre Fred VanVleet l'année dernière, comme j'ai dit, là, avec la série de playoffs, pardon, qui l'a connu. On voit qu'il est prêt pour être un partant en NBA. Donc là, ça va être intéressant. Un peu, on a parlé des Cavs dans l'autre épisode qu'il y avait avec deux point guard. Mais la différence là-dedans, c'est que les deux sont capables de défendre très bien. Donc là, on a un côté, je pense que c'est Kyle Lowry qui a pris le plus grand nombre de charges l'année dernière dans la NBA et dans les séries éliminatoires par beaucoup. Donc c'est un joueur qui est prêt à sacrifier son corps pour son équipe. Et je pense que Fred VanVleet est un peu le même genre de joueur, la même force d'esprit qu'un Kyle Lowry. Donc pour moi, il veut faire sauter la banque à la fin de l'année, Fred VanVleet se devra de connaître une saison là, en 15 points de moyenne là, facilement.
Donc, je te surprends encore une fois avec les Celtics. Tout à fait. Donc, les Celtics de Boston, donc... qui vont reprendre cette saison avec un nouvel alignement, mais sans être trop différent. On a Kemba Walker qui prend la place de Kyrie Irving en tant que meneur titulaire. On a Al Horford qui est parti aux 76ers. Et donc, on a Enes Kanter qui est venu prendre la place de probablement de pivot partant. Là. Mais on a toujours la profondeur que les Celtics nous connaissaient l'année dernière avec un Jaylen Brown, un Jason Tatum que j'attends une grosse saison de sa part. Gordon Hayward, l'énigmatique poste 3 qui est toujours là. On a encore une fois là, du Aaron. On a toujours Marcus Smart qui est là. Donc, les Celtics ont beaucoup de profondeur. Ça va être une équipe qui va être encore très difficile à affronter. Je pense que le projet Kemba Walker avec les Celtics va fonctionner super bien. Je pense que Kemba Walker va être est plus facile à intégrer à une formation qu'un Kyrie Irving l'a été lors de son arrivée à Boston. Je pense que les complémentarités avec, mettons, avec Enes Kanter, avec Jason Tatum, avec Gordon Hayward, Jaylen Brown, je pense que ça va être vraiment plus facile pour les Celtics de fonctionner offensivement. On n'a pas vraiment perdu autant de défensives parce que Kemba Walker, au niveau défensif, je le prends au niveau défensif par rapport à Kyrie Irving, c'est pas mal pareil, même peut-être un peu mieux. Au niveau offensif, dans l'année passée, il y a eu une meilleure saison que Kyrie Irving selon moi. Donc, s'il maintient les mêmes standards avec plus d'aide, je pense que peut-être qu'il va avoir moins de points marqués, mais plus peut-être de passes distribuées. Donc, pour les Celtics, je pense qu'on va avoir une très bonne saison. Je pense que les Celtics vont être une équipe qui va jouer vraiment sur ses forces, qui va être dure défensivement, avec un Enes Kanter qui va être là au rebond, là, qui est vraiment un véritable guerrier. Là. Pour donner un exemple, là, lors des dernières séries, il jouait avec les Trail Blazers. C'est lui qui remplaçait Nurkic durant sa blessure. Et dans le fond, Enes Kanter a joué durant le Ramadan avec des épaules endolories ou même voire blessées et a livré des performances très inspirées. Donc Enes Kanter, c'est un joueur, un guerrier qui va vraiment bien fitter avec l'esprit de Boston. Et dans le fond, avec le développement de Jason Tatum, que j'attends beaucoup cette saison, là, qui pourrait devenir All-Star à l'Est avec Kemba Walker, qui devrait maintenir son statut. Là, l'année dernière, il était le starter au niveau du point guard. Je pense que Kyrie Irving va peut-être vouloir lui raviver ce poste-là, mais Kemba Walker va quand même être encore une bonne saison. Et les Celtics, selon moi, vont être capables de gagner beaucoup de matchs. Moi, je pense, comme je l'ai dit pour les Raptors, c'était un 48 victoires, mais je pense que les Celtics, là, c'est pas impossible pour eux de remporter un 50 victoires. Il n'y aura pas une grosse différence avec les Raptors, selon moi. Je pense que ça va être très serré entre les postes 5, 4 et 3 de l'Est. Donc, je mets les Celtics 4e parce que je pense que l'année dernière, ils ont terminé 4e. Il y avait à peu près la même équipe qu'ils ont là. Si on change Irving pour Walker et Horford pour Kanter, on perd de défensive et de leadership entre Horford et Kanter. On gagne plus de rebonds et peut-être au niveau offensif avec Kemba Walker, on gagne un meilleur leader et on gagne un peu plus de chimie avec les autres joueurs. Donc, si les autres joueurs s'entendent mieux avec Kemba, ben, ils vont mieux profiter. Et je pense que Jason Tatum, comme je l'ai dit, va s'améliorer dans cette saison-ci. Donc, les Celtics en 4, 4e position. Et mon joueur X, ça va être Jason Tatum. Parce que je pense que si Jason Tatum décide de s'y mettre, s'améliore encore plus. Parce que je pense que d'année en année, s'améliore. Va devenir un poste 3 dominant dans l'Est. C'est sûr qu'il y a, il y a moins de superstars dans ces positions-là maintenant. Kevin Durant ne sera pas là cette saison. LeBron James est parti de l'Est. Jimmy Butler est rendu avec le Heat, donc va l'affronter peut-être un peu moins souvent. Donc moi, je pense que Jason Tatum va avoir une très bonne saison et je vais avoir beaucoup d'intérêt de son côté lorsque les Celtics seront à Toronto ou lorsqu'on les aura à la télé.
Parfait. Donc, position numéro 3, j'ai moi les Celtics de Boston et tu as
les Pacers d'Indiana.
Les Pacers d'Indiana. Donc, on a le même top 2.
Oui.
C'est pas encore l'ordre dans lequel ils sont, mais pour ce qui est des Celtics, là, tu viens d'en parler en long et en large. Moi, c'est brièvement pour ajouter que j'ai mis les Celtics plus haut parce qu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner et à prouver aux amateurs de la planète basket. L'année dernière n'était pas dégueulasse, mais extrêmement en deçà des attentes que on leur avait fixées. On les attendait dans le top 2. On les attendait soit premier ou soit deuxième de la conférence de l'Est. Par contre, les performances en deçà des attentes, un Kyrie qui était soi-disant le leader incontesté de cette équipe-là, un Tatum qui voulait avoir être un joueur de franchise. Il y avait un Terry Rozier qui se disait, s'autoproclamait un point guard titulaire dans la NBA, un leadership et un énigmatique Jaylen Brown. Il y avait beaucoup d'incohésion dans cette équipe-là. Donc là, on a perdu Irving et Rozier et Al Horford également. On les a remplacés par Walker et Enes Kanter. Moi, j'ai bien hâte de voir, après leur performance aussi décevante au tournoi de la FIBA, les États-Unis qui avaient le quatuor Tatum, Brown, Smart et Kemba Walker. Donc, ces quatre joueurs-là ont joué ensemble au tournoi de la FIBA et ont eu les pires résultats de l'équipe américaine dans l'histoire. Donc, est-ce que c'était un avant-goût de la saison des Celtics? Je ne crois pas. Je pense que ça a été justement une bonne pratique pour eux pour voir comment la chimie se déroule. J'ai hâte de voir là, comment tout ça va prendre ensemble, mais je pense que là, finalement, on a peut-être trouvé quelque chose de gagnant au niveau de l'équipe de Boston. Je pense que tout le monde va être capable de mieux jouer collectivement. Et pour moi, mon facteur X, là, ça va être Kemba Walker. Kemba Walker, qui a décidé de quitter la franchise pour laquelle il jouait depuis le début de sa carrière, était devenu le meilleur scoreur de la franchise et pour plusieurs était rendu l'icône. Quand on passe aux Hornets, on pensait à Kemba Walker. Son maillot sera peut-être retiré aussi avec les Hornets. Sauf que là, tu quittes cet environnement-là d'une équipe qui n'avait pas vraisemblablement jamais gagné grand chose, mais que tu étais considéré comme un roi. Et là, tu te retrouves dans une équipe, une des équipes les plus prestigieuses dans l'histoire de la NBA, où il y a eu de nombreux champions et de nombreux gros noms. Alors là, toi, tu dois faire ta place dans ces noms-là. Et tu dois répondre en tant que lieutenant principal de cette équipe. Amener ton équipe en minimum deuxième tour, si c'est pas troisième tour, si c'est pas finale NBA. Je pense que si l'équipe des Celtics ne va pas en finale d'association, ça va être une saison en échec pour eux. Donc j'ai bien hâte de voir le nouvel alignement, les nouvelles couleurs là, de cette équipe-là des Celtics.
Parfait. Donc moi, en troisième position, j'ai les Pacers de l'Indiana. Donc, moi, toi, tu les avais en sixième, moi, je les ai en troisième. Plusieurs raisons. Je vais vous nommer les. Si on y va avec les cinq joueurs partants que je crois que les Pacers vont avoir, Victor Oladipo va être de retour, qui était un joueur extraordinaire l'année passée pour eux. Et lorsqu'il était là avec les Pacers l'année passée, les Pacers étaient troisième. Ils étaient solidement ancrés en troisième place. Donc, les Pacers avec Oladipo. Au poste 2, on a Malcolm Brogdon, pardon, qui est arrivé des Bucks, qui va former un backcourt extraordinaire, vraiment dynamique. Et ça va vraiment bien se compléter, là, ces deux joueurs qui vont super bien matcher ensemble, j'ai aucun doute là-dessus. Tu l'as dit tantôt, TJ Warren, qui est acquis des Suns, qui devrait être au poste 3. Au poste 4, selon moi, c'est ce que je ferais. Je pense pas qu'on va le faire, mais j'irai avec Domantas Sabonis, qui peut jouer en 5, mais qui est parfait au poste 4, qui excelle vraiment dans ce poste-là. Et Miles Turner, le bloqueur, le rebondeur, le joueur dynamique qu'il est. Je pense que ces 5 joueurs-là ensemble, là, c'est solide, c'est excellent offensivement, c'est bon, ça peut tirer de loin, ça prend des rebonds, ça défend, ça se complémente bien. Donc je pense que les Pacers ont eu une intersaison assez... pas tranquille, mais ils ont fait des bons moves, des joueurs qui avaient besoin. Oui, ils ont perdu Bogdanovic. Oui, ils ont perdu Thaddeus Young, mais je pense qu'ils ont remplacé avec des joueurs qui viennent couvrir des trous. Et si Sabonis est en sixième homme comme il était l'année passée, ben, on va quand même avoir une très grosse profondeur. Je pense qu'on va le mettre en partant parce que l'année passée, il y a éclos et on veut l'utiliser le plus possible. Je pense que Miles Turner va s'améliorer cette saison. Je pense que Oladipo et Brogdon vont faire des ravages ensemble. Et selon leur division, je trouve que les Pacers, c'est sûr qu'ils sont dans la division des Bucks de Milwaukee, mais après ça, les Pistons, les Cavaliers et les Bulls, je te dirais que ça va être plus facile d'accumuler des victoires. Tu sais, si on compare avec la division Atlantique, là, qui est vraiment, vraiment là, congestionnée. Donc, je pense qu'au niveau des divisions, ça va être un peu plus facile pour les Pacers. Je dis pas que les Pacers vont gagner 5 matchs de plus que les Celtics, mais je pense qu'on va gagner peut-être un match ou deux de plus. Donc, les Pacers, selon moi, vont finir troisième de la conférence S. Et pour terminer, mon joueur X des Pacers, c'est Victor Oladipo. Il revient de blessure. Si Victor Oladipo est au même rythme qu'il allait à l'année passée, il a été All-Star. Dans le fond, il a été obligé d'être remplacé en raison de la blessure contre les Raptors. S'il maintient le même rythme, avec un Brogdon qui va l'aider, avec des joueurs complémentaires autour de lui, je pense que les Pacers vont être une équipe extrêmement difficile à jouer contre. Ils sont tenaces, ils jouent défensivement, ils sont intenses et ils vont jamais lâcher. Donc, je pense que les Pacers vont être parfaits dans ce poste-là de troisième équipe là, derrière les deux gros ténors de l'Est.
Parfait. Donc, top 2. Donc, en deuxième position, j'ai les Bucks de Milwaukee qui vont céder leur place aux 76ers en première position. Et tu as?
Les Bucks vont rester premiers, j'ai les 76ers en deuxième.
Parfait, donc on peut débattre sur ça. Je vais commencer. Pourquoi je vois les Bucks finir en deçà des 76ers? On parle des Bucks en long en large, des 76ers, et pourquoi après ça l'équipe finit où on l'a placé. Pour les Bucks, saison incroyable, saison MVP de Giannis Antetokounmpo, qui est un joueur qui a fait une progression immense depuis son arrivée en NBA. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Giannis, là, mais c'était assez incroyable, là, qu'il était vendeur de crayons en Grèce. Et que là, quelques années après, se retrouve meilleur joueur d'une saison en NBA. C'est quand même assez fou. Un off-season pour les Bucks, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, quand j'ai parlé des Pacers, du départ de Michael Brogdon, dans le fond, il y avait un petit peu d'argent qui était disponible pour les Bucks. Il y avait trois joueurs qu'on se devait de re-signer. En fait, trois joueurs disponibles. Il y avait Michael Brogdon, il y avait Brook Lopez et il avait Chris Middleton. On a fait le pari de garder Middleton et Brook Lopez. Brook Lopez qui a eu une saison incroyable, un renouveau pour ce joueur-là que, avec sous les ordres de son nouvel entraîneur, a complètement changé sa façon de jouer. On le connaissait comme étant un joueur qui jouait beaucoup de dos au panier, souvent là sur du roll. Et comme un très bon contreur, mais là, souvent, dans cette saison-ci, on le voyait vraiment dans le jeu qu'on appelle du spacing. Donc, à la ligne de 3 points, on laisse la place à Giannis pour la drive. Et si les gens viennent en aide, donc on kick sur le côté pour 3 points. Et Brook Lopez a joué ce rôle-là à la perfection, était un des très bons même à son poste à 3 points. En parlant de bon à 3 points, on a été chercher Kyle Korver dans le off-season, qui est un excellent ajout à cette équipe-là. Tu es un vétéran, un des meilleurs tireurs à 3 points dans l'histoire de la NBA. On a prolongé George Hill, qui a connu des bonnes séries de playoffs quand même. Là. Bledsoe, qu'on a signé aussi pour les Bucks. Donc, c'est une équipe qui est quand même assez similaire. On a rajouté Wesley Matthews aussi dans le off-season. Mais c'est une équipe qui est quand même assez similaire à l'année dernière, sauf qu'on a perdu Brogdon. Donc, pour moi...
Ouais, donc les Bucks ont perdu aussi Nikola Mirotic, comme on l'a dit. Si je ne me trompe pas, il est reparti en Europe. Il ne sera plus en NBA. Dans le fond, les Bucks, selon moi, ont gardé l'essence de leur équipe. On a gardé Chris Middleton parce que c'est le lieutenant de Giannis. Sa complémentaire. sont complémentaires, pardon. Malcolm Brogdon était un excellent joueur, mais c'était ça a été un joueur qui était inconstant avec les Bucks l'année dernière. Donc, je pense que oui, c'est une lourde perte, mais on a conservé l'essence des Bucks. Je pense que Giannis va faire à peu près la même saison qu'il a fait l'année passée, ou même encore meilleur, parce que je pense que c'est un joueur qui va continuer. Il n'a pas encore atteint son prime, comme on appelle, son peak. Donc, je pense qu'il va continuer de monter en puissance. Brook Lopez, comme on l'a dit, super bon dans sa position. Donc, le 5 majeur qu'on appelle là, des Bucks sera pas tellement différent. On a quand même gardé une bonne polyvalence, une bonne profondeur de jeu avec les autres joueurs. Comme tu l'as dit, George Hill, dans le fond, ce qu'on a fait avec George Hill, c'est qu'on l'a coupé parce qu'il avait un gros salaire et on l'a re-signé donc, pour pouvoir le garder parce qu'on aimait ses services, mais était, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, pour d'autres joueurs, il avait le syndrome du gros contrat. Donc, on a gardé George Hill, on a encore Pat Connaughton qui est là. On a vraiment là, de la profondeur et on est allé chercher Robin Lopez, le frère de Brook, pour compléter au poste 5. Donc, les frangins vont jouer ensemble au poste 5. C'est un bon remplaçant pour Lopez. Robin Lopez, pardon. C'est pas le même genre de joueur que son frère. Lui, c'est vraiment là. Il va vraiment faire le travail que son frère faisait avant. Là. C'est vraiment un centre typique là, au rebond avec les pick and roll qui est physique. Donc, je pense que les Bucks, selon moi, vont, vu que c'est une équipe qui s'est pas tellement changé, on va avoir la même méthode. On va avoir, il y a un Giannis encore meilleur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Bucks en haut des 76ers. Je sais pas si tu veux qu'on parle des 76ers, puis après ça, on pourrait dire chacun nos facteurs X.
Oui, on peut parler des 76ers. Je voulais rajouter sur les Bucks, c'est que là, on a eu un Giannis qui était tout feu, tout flamme l'année dernière. Sauf que là, les équipes ont vu un peu comment les Raptors ont défendu contre lui durant la saison, les saisons éliminatoires. Donc, j'ai l'impression que les gens vont devenir plus préparés quant à la venue de Giannis durant les matchs. Chose que les 76ers ont fait, ont amené Al Horford, qui est un excellent défendeur en général, et on avait déjà Joel Embiid en poste 5. Donc, pour les 76ers, on a eu quelques pertes. On a perdu J.J. Redick, qui était quand même une grosse pièce à l'effectif des 76ers. On a perdu aussi Jimmy Butler, qui a été remplacé par Josh Richardson. Mais le Al Horford, c'est vraiment la pièce pour devenir encore plus pesant du côté de Philadelphie. On va être un peu comme une genre d'équipe comme les Pistons. À l'intérieur, on va être très, très, très difficile à jouer. Plus un Ben Simmons qu'on a vu comment ça défend bien. Et on a vu durant l'été tirer à 3 points. Et là, je viens de lire justement que si le 3 points est libre cette année, il va lancer. Donc, si Ben Simmons est un joueur maintenant qui est capable de tirer à 3 points ou avoir des pourcentages juste un peu corrects, à 3 points, ça va être une arme quasi instoppable. Il me fait penser beaucoup à LeBron James dans sa façon de jouer, dans comment il bouge son corps et drive au panier. S'il est capable de rajouter aussi un tir à 3 points, de devenir un joueur encore plus complet, je pense que les 76ers vont être gagnants. On a rajouté, comme j'ai dit, un Al Horford qui tire bien à 3 points, qui défend bien, il peut défendre sur des 4, sur des 5. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc ça va juste être intéressant du côté de Philadelphie de comment on va utiliser toutes ces pièces-là pour faire en sorte que cette équipe-là aille loin en saison et aille loin après ça en série éliminatoire. Je sais que pour plusieurs fans de Philadelphie, c'était une déception au match numéro 7 contre les Raptors au deuxième tour, l'espèce de tir de shot là, qui appelle le tir de Kawhi qui rebondit 4 fois sur l'anneau. C'était un petit peu chanceux. Oui, j'ai oublié de dire, on a re-signé Tobias Harris aussi. Donc, on amène énormément de poids, de taille. Je pense qu'on est l'équipe la plus grande en NBA en moyenne. Je pense que la moyenne des joueurs des 76ers se trouve à 6 pieds 9. Et la deuxième équipe est comme à 6 pieds 7, 6 pieds 6. Donc, c'est quand même un 2 pouces qu'on concède en moyenne de plus à cette équipe-là de Philadelphie. Donc, je pense qu'on s'est buildé un club pour être prêt justement pour les séries éliminatoires. Puis quand le temps. On veut finir premier, mais après ça, le but c'est de se rendre en finale NBA. Je pense que le mot d'ordre est clair du côté des 76ers.
Oui, donc comme tu l'as bien dit, là, les 76ers ont quand même changé leur visage cette intersaison. Moi, je suis pas un énorme fan des changements qu'ils ont faits. Oui, on a gardé Tobias Harris, là, on lui a donné le contrat max, on va peut-être le regretter. C'est un excellent joueur, a failli être All-Star l'année passée, là, avec sa milieu de saison avec les Clippers et l'autre avec les 76ers. Très bon joueur là, qui était vraiment poste 4 l'année passée, mais là avec Al Horford qui est arrivé, qui va le prendre jouer en poste 5, en poste 4, pardon, parce qu'on a Joel Embiid en 5. Tobias Harris va le prendre au poste 3. Donc, comme tu l'as dit, une équipe très grande. C'est Josh Richardson qui va être au poste 2. Et comme tu l'as dit aussi, si Ben Simmons peut commencer à avoir un jump shot qu'on appelle et un tir à 3 points aussi, ça va être une des équipes les plus dominantes de la ligue. Par contre, on a Tobias Harris qui peut tirer. Je pense qu'au niveau du tir, il va vraiment falloir que ça, que Simmons s'améliore. Et il va falloir que Josh Richardson ait une bonne saison parce que, oui, on va être grand, mais au niveau de la création, je pense que ça peut être difficile. Et je pense qu'on va avoir une très bonne saison au niveau des 76ers, mais je pense qu'on va devoir s'acclimater tout au long de l'année aux nouveaux joueurs. Et moi, je crois qu'en séries éliminatoires, ils vont être très dominants. Mais je pense qu'on va avoir quelques petites difficultés à s'ajuster. Pas de difficultés, mais ça va être plus long un peu à s'ajuster. Et je pense que les Bucks vont finir juste un peu en avant d'eux à cause de ça.
Ouais,
Voilà.
peut-être le petit bémol, excuse-moi de te couper, mais peut-être le petit bémol, là, comme on a parlé avec des équipes qui ont trop de profondeur, c'est la répartition des
Exact.
ballons. Fait qu'est-ce que justement ça va créer un peu comme l'effet Celtics qu'on a vécu l'année dernière? Tu sais, si Ben Simmons, là c'était bien avec Ben Simmons, il tirait pas, puis il cherchait un peu les joueurs disponibles, mais Embiid va vouloir avoir beaucoup de ballons. Il y a Tobias Harris l'année passée qui a eu une saison All-Star qui avait beaucoup de ballons. Al Horford, je pense, peut accepter son rôle et rester peut-être un peu plus en arrière-plan. Mais quand même, on va avoir des joueurs qui vont demander beaucoup, beaucoup de ballons. Donc, est-ce que je ne serais pas surpris d'avoir un joueur comme Horford ou Tobias Harris en sixième homme, qui est quand même une grosse profondeur à avoir. Mais oui, j'ai hâte de voir pour ce qui est de. Je pense que la chaude lutte va se disputer entre ces deux équipes-là. Je pense que les équipes comme les Celtics, les Pacers, les Raptors, les Nets vont être en deuxième rideau. Mais je pense vraiment que la course va se faire entre les deux géants de l'Est, les Bucks et les 76ers. Veux-tu enchaîner avec les facteurs X pour les deux équipes?
Yes, donc je vais commencer avec les Sixers que j'ai mis en deux. Les 76ers, mon facteur X, ça va être Ben Simmons. Je pense que Joel Embiid va quand même encore faire une saison monstrueuse. Il a beaucoup de choses à prouver. Il va vouloir revenir en force après à nous avoir laissé avec des larmes après la défaite contre les Raptors. Beaucoup de gens ont trouvé ça bien drôle, mais je pense qu'il va être très préparé et très furieux de ce résultat, il va vraiment tout donner sur le terrain l'année prochaine pour pouvoir se rendre en finale et gagner un titre. Et donc, je pense qu'en saison, Joel Embiid va être vraiment très, très dominant. Et on a dit les autres joueurs qui s'intègrent, Al Horford et Josh Richardson. Mais je pense vraiment que c'est Ben Simmons qui va vraiment là, mener l'équipe. Comme tu l'as dit, si on est capable de tenir un peu plus de shooting de sa part, je ne sais pas si cet été, qu'est-ce qu'il a fait, si on a eu. T'sais, il doit probablement avoir eu beaucoup de séquences vidéo ou de travail à 3 points. Je sais pas, là, il va peut-être essayer de danser à la danse de la pluie ou apprendre à jouer de la clarinette, peu importe, vraiment là, pour pouvoir tirer à 2 points, faire des jump shots ou des 3 points. Donc vraiment, c'est mon joueur à surveiller. Ben Simmons qui peut, honnêtement, s'il a une saison, une grosse saison, ça peut être un des joueurs les plus importants de l'association Est.
Pour moi, du côté des 76ers, ça va être Joel Embiid, comme tu as dit. Je pense qu'il a réalisé, après sa série contre les Raptors, une série en dents de scie. Oui, faisait face à un des meilleurs défendeurs au poste 5 en tant que Marc Gasol. Même s'il y a un Marc Gasol qui est vieillissant, c'est un gars qui a plus d'un tour dans son sac. Était prêt à ce duel-là contre Joel Embiid. Mais Joel Embiid aussi, comme tu as dit, on l'a vu fondre en larmes après le match. Je pense qu'il a réalisé à quel point tout n'arrive pas facilement dans la vie. Donc, il faut que tu travailles énormément fort pour arriver à ton but ultime, qui est de gagner le trophée Larry O'Brien. Et je pense que rendu en série éliminatoire et durant la saison, il va se remémorer ce qu'il a vécu durant la série contre Philadelphie. On l'a vu avoir des matchs très, très, très dominant et après ça, complètement effacé. Donc, on a besoin d'un Joel Embiid qui est très constant, un Joel Embiid monstre. C'est vraiment le mot d'ordre pour moi. Là, il faut qu'il soit un vrai monstre sur le parquet et qu'il aille une saison complètement, complètement folle s'il veut se rendre au tour suivant là, pour possiblement affronter les Bucks en série d'association et d'avoir après ça une équipe là, complète qui est là pour affronter Giannis. Parce qu'une fois, on va se dire, une fois que tu as stoppé Giannis, tu as stoppé peut-être 40% des Bucks, 40% de l'offensive des Bucks. Donc, ça va être important pour lui, pour Horford, pour Simmons, toujours varier les rotations, toujours avoir quelqu'un constamment sur Antetokounmpo rendu dans les matchs de la saison et même en playoff, là, donner le ton dès le premier match contre les Bucks qu'il n'y aura pas de cadeau et remporter ces matchs-là clés. Donc pour moi, Joel Embiid va être vraiment le facteur X de cette saison. Puis pour ce qui est des Bucks, veux-tu commencer avec joueur?
Pour les Bucks, mon joueur clé, ça va être Chris Middleton. Chris Middleton, on l'a dit, a signé un contrat max. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu sourcillé quand ils ont vu cette signature-là. On voulait vraiment le garder, mais à quel prix? Dans le fond, Chris Middleton a été All-Star l'année passée. Il a fait une très bonne saison. C'est un excellent lieutenant là, à Giannis. Il se complète bien. Mais là, Chris Middleton, il faut qu'il maintienne. Il faut qu'il maintienne les mêmes statistiques ou même qu'il en fasse un petit peu plus. Je m'attends pas à ce qu'il fasse du 25 points par match, mais je veux que Chris Middleton continue de complémentariser Giannis et il se doit de maintenir son jeu. Parce que c'est facile. Si on stoppe Giannis, comme tu l'as dit, on stoppe 40% de l'attaque. Si Middleton est en demi-teinte à certains soirs, Giannis est doublé défensivement, ça va être très difficile pour les Bucks offensivement parce qu'on a un Rick Bledsoe qui est un bon meneur gestionnaire, mais c'est pas un gars qui tire à 3 points. C'est pas une machine offensive. Je le comparais un peu à un Kyle Lowry là, avec des Raptors. Là. C'est vraiment là, défensif, gestionnaire, tout ça. On a un Brook Lopez qui est là aussi, mais Brook Lopez, il est bon dans son rôle, mais c'est pas lui non plus qui va faire une vingtaine de points. Donc vraiment, Chris Middleton, le joueur clé selon moi pour les Bucks, si on veut, on veut finir premier.
Et pour moi, sans surprise, ça va être Giannis Antetokounmpo, sorti d'une saison vraiment MVP, qui était chaudement disputé avec James Harden, qui avait beaucoup qui votaient James Harden, beaucoup qui votaient pour Giannis. Il y a des choses peut-être à se faire pardonner, peut-être dans sa réaction contre la série contre les Raptors, a pas performé au niveau qu'on l'attendait. Kobe Bryant, lui, avait donné le défi de remporter le titre de MVP. Et je pense qu'il avait tweeté comme c'est fait, puis maintenant son nouveau challenge c'est de remporter un championnat. Donc je pense qu'il va redoubler d'ardeur, il va arriver le couteau entre les dents comme on dit, puis il va vraiment arriver encore une fois comme l'amiral de son équipe et qui va leader toute sa bande là, vers finale d'association et finale de la NBA d'après moi. Si c'est pas les 76ers qui s'y rendent. Mais voilà pour ce petit podcast pour les positions 8 à 1 de l'association S. Il y a l'épisode sur l'association Ouest qui va suivre bientôt. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram au Double Dribble Podcast. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez nous les faire part. Et sinon, on se revoit pour le prochain épisode.